Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Prix Goncourt pour L'Anomalie chez Gallimard, roman haletant, étonnant, drôle et profond. Le Goncourt, dans votre vie d'écrivain, vous en aviez rêvé ?
Non, je n'avais pas envisagé une seconde.
Pas une seconde ?
Enfin, non, ça fait partie des... Enfin, quand on écrit un livre, on n'envisage pas du tout la course au prix. Mmh. On sait qu'on sort en... On sort en septembre pour être dans la rentrée littéraire. Et très bizarrement, c'est aussi pour l'idée de participer au prix, mais on n'a pas idée qu'on peut accéder au Goncourt et l'obtenir. Quoi. C'est fait pas partie des projets, en général, des auteurs, je pense.
Et le Goncourt sans tralala, sans la bousculade devant chez Drouhan, ni les effusions du salon du premier étage, c'est décevant ou frustrant ?
Comme on a le Goncourt qu'une seule fois, je ne l'ai pas eu auparavant, j'ai pas les éléments de comparaison. Pour ma part, la forêt de micro, ça me manque pas trop. La bousculade non plus, je suis... J'étais presque content d'être en vidéoconférence avec les Goncourt. Je trouvais ça extrêmement calme, reposant. On pouvait dire ce qu'on voulait. On avait un petit peu de temps. Ça me paraissait plus simple qu'un discours improvisé sur un perron de manière un peu aléatoire.
Plus simple et plus serein, oui, sûrement. Alors, comment résumer votre roman sans gâcher le plaisir du lecteur ? Vous nous présentez d'abord une galerie de personnages qui ont tous des problèmes ou des secrets, dont un écrivain, un certain Victor Meisel, qui intitule son dernier livre « L'Anomalie » avant de mettre fin à ses jours et qui devient ensuite un écrivain culte. Il y a du Meisel en vous, Hervé Le Tellier ?
J'ai construit le personnage de Meisel à partir d'amis. Qui sont soit vivants, soit décédés. Et y a un peu de Meisel en moi, dans le sens où le deuxième Meisel, celui qui réapparaît, puisqu'il y a une réapparition de Meisel dans un deuxième temps dans le livre, est plus proche de moi que le premier, sans doute. Il y a une distanciée ironique. Je pense être un petit peu comme ça. Le Meisel, en tout cas, suicidaire et dépressif du milieu du livre, c'est vraiment pas moi.
C'est vraiment pas par exemple, l'amertume du premier Meisel. Le petit monde de la littérature lui paraît un train burlesque où des escrocs sans ticket s'installent tapageusement en première avec la complicité de contrôleurs incapables, tandis que restent sur le quai de modestes génies. C'est ce qui...
Auquel Meisel ne pense pas d'ailleurs appartenir.
Mais est-ce que c'est ça, c'est un sentiment, en gros l'imposture quoi, hein. C'est un sentiment qui a pu vous effleurer jusqu'ici.
Tous les auteurs d'abord ont un sentiment un peu d'imposture, parce que qui va valider la littérature qu'à un moment donné... La chose agréable dans la réception d'un prix comme le Goncourt, c'est la validation par les pairs. Donc, pendant quelques instants, pendant quelques mois, quelques années, on aura l'impression de ne pas être un imposteur. Mais il me semble que si les auteurs ne pensent pas être des imposteurs, ils ont du mal à écrire. Il faut pouvoir lutter contre cette sensation d'être un imposteur pour écrire à peu près convenablement. Il faut tout le temps surveiller sa propre écriture, être vigilant, faire du neuf avec une langue ancienne, parce que la langue dans laquelle nous évoluons est une langue qui est une langue banalisée par le langage, par l'écriture un peu, entre guillemets, du premier jet. Donc il faut absolument aller ailleurs. Et pour ça, pour aller ailleurs, il faut être un peu persuadé d'être un imposteur pour pouvoir justement subjuguer.
Son éditrice, ce Meisel, trouve que le succès à 50 ans ou à 50 ans passés, c'est la moutarde qui arrive au dessert.
Oui, c'est une formule que j'ai volée à Raymond Queneau, qui, lorsqu'il a obtenu un succès inespéré avec
Zazie dans le métro,
a estimé que c'était un peu la moutarde qui arrivait au dessert. Je trouve que c'est une très belle formule. Pour ma part, c'est même pas à 50 ans, c'est à 60. Donc je vais faire revenir le gigot pour profiter de la moutarde.
Pour profiter de la moutarde. On va reparler de Raymond Queneau dans quelques minutes. Tous vos personnages, Hervé Le Tellier, partagent une aventure extraordinaire. Un voyage en avion sur un vol Paris-New York qui traverse des turbulences dantesques, un orage épouvantable. Ça m'a fait penser tout à l'heure au récit du navigateur Kevin Escoffier. Des turbulences donc qui les font atterrir deux fois... À 3 mois d'intervalle, le même avion avec les mêmes passagers, le même équipage, tout est en double.
Oui, je voulais.
J'en ai dit assez.
On peut le dire comme ça. Je m'intéressais au thème du double. J'avais envie de faire un roman qui s'intéresse à ce qui se passe quand on est confronté à soi-même. J'ai voulu confronter beaucoup de personnes à elles-mêmes, donc il fallait quand même un véhicule dans lequel il y ait beaucoup de monde. Un avion était absolument idéal. Et j'ai eu envie d'avoir 5, 6, 7, 8 personnages. Et je me suis arrêté au moment où j'ai pensé qu'il y en avait presque trop. Donc je me suis juste arrêté à 8. Puis j'en ai rajouté 2, 3 qui devaient suivre tout ça. Et je suis ces différentes identités qui sont toutes très, très différentes les unes des autres. Un tueur à gages, effectivement, une avocate, un écrivain, voilà. Et tous ont à des âges différents, ont des sexualités différentes, sont de genres différents, ont des couleurs de peau différentes, viennent de pays différents. Et c'est, toutes ces différences faisaient finalement que face à eux-mêmes, ils pouvaient avoir des réactions très différentes.
Oui, et certains ont des doubles vies, ce qui fait penser au vieux, à la vieille blague de l'agent double qui se regarde dans une glace et qui forcément voit en quatre. Donc en plus, voilà,
certains ont des vies cachées, certains ont celui qui a la vie la plus cachée, c'est clairement le tueur à gages, mais d'autres ont des vies simples, mais qui sont prises dans une sorte de trou médical, comme par exemple celui qui va tomber très malade et qui va mourir un certain nombre de fois, se regarder mourir. Et j'avais envie de traiter cette question d'être confronté non seulement à soi, mais parfois confronté à sa propre vie et à ses échéances qui sont celles de la finitude, qui sont celles de la déchéance. Et donc les personnages se voient pour la première fois avec une certaine acuité. Vous parlez du miroir, mais les miroirs sont plutôt gentils avec nous, parce que quand on se regarde dans un miroir, on est toujours assez tendre et puis on essaye de s'apprivoiser, on essaye de trouver la manière de se regarder qui est la plus tendre possible. Là, c'est pas possible. On se regarde vraiment soi et avec une dureté qui est unique.
Oui. Et surtout, il faut dire à ceux qui n'ont pas encore ouvert votre livre que ça ressemble pas à un délire fantastique. C'est-à-dire tout est précis, logique. Rationnel même, d'une certaine façon, c'est votre formation scientifique. Hein.
Je n'aime pas j'aime le fantastique. Je veux dire, tout le monde aime Kafka et la Métamorphose, mais ce que je voulais, c'était avoir un livre qui puisse reposer sur une possibilité scientifique. Et que cette possibilité scientifique assaille la thématique du roman de manière à ce que ça soit un peu plus vertigineux pour le lecteur et qu'il puisse se poser des questions non seulement sur ce que vivent les personnages, mais sur ce que c'est que sa propre vie. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est tangible? Est-ce que la table sur laquelle on tape existe? Et ça m'intéressait de poser ces questions-là.
On connaît votre goût, Hervé Le Tellier, pour les jeux littéraires. Vous êtes membre et même président depuis quelques années de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle créé par le Lyonnais Raymond Queneau.
Oui.
Qu'avez-vous mis d'oulipien dans ce roman?
Alors avant toute chose, je voudrais embrasser Marie Scheck, qui est la sœur d'Anne Sylvestre. Oui. Et Marie Scheck, c'était la compagne d'un oulipien, Carrie Matthews, qui était le meilleur ami de Georges Perec. Donc évidemment, la disparition d'Anne Sylvestre me touche. Ce qu'il y a dans ce livre d'oulipien, c'est avant tout le jeu, qui est celui sur les différents... fils narratifs qui sont à chaque fois associés, j'associe à chaque fois dans ce livre les genres et les personnages. Donc quand on commence un chapitre comme un roman noir, c'est que je vais parler forcément du tueur à gages. Lorsque je commence un chapitre comme un roman sentimental, c'est qu'il va y avoir ensuite une petite histoire, un peu chiclite, comme on dit, littérature pour jeunes filles. Et quand je fais un roman, disons... quand je fais arriver mon personnage d'écrivain, j'essaie de lui donner un livre à l'intérieur, une littérature un peu blanche, un peu à l'assurant, de manière à ce que ce personnage existe. Il me semble que le jeu qui existait au niveau oulipien, c'était un jeu de partenariat entre mes personnages et le style dans lequel ils sont insérés.
Absolument.
Au fur et à mesure que le livre avance, je fusionne tous ces styles pour faire un livre unique, mais la première partie est une partie de genre où je joue avec les genres littéraires.
Absolument. Le premier personnage que vous décrivez, Blake, le tueur à gages, ça...
C'est du Manchette.
Exactement. C'est du Jean-Patrick Manchette. C'est écrit comme un polar avec la nervosité du polar.
Oui, j'adore jouer avec ces genres.
Le grand roman oulipien qui a pu... influencer ou inspirer votre anomalie
C'est un livre d'Italo Calvino. Si je dois prendre un des romans, ça serait vraiment ce livre dans lequel Calvino aborde la question du genre à travers des expositions. Il commence dans « Si par une nuit d'hiver un voyageur », il commence chacun de ses chapitres par un début de roman, tous différents. Il y a un roman japonais, un roman à la française, un roman à l'allemande, un roman presque un policier. Et à chaque fois, il emmène son lecteur dans une histoire qu'il abandonne en cours de route pour faire la démonstration de ce que c'est que la frustration des lecteurs et de la disparition des mondes. Moi, j'avais envie d'un livre différent dans lequel je ne frustre jamais le lecteur et où j'aboutisse chacun de ses projets dans une tresse, en tressant tous les personnages ensemble.
Merci beaucoup Hervé Le Tellier.
Merci à vous.
J'espère qu'on aura fait aimer à ou donner envie à ceux qui nous écoutent de lire cette anomalie chez Gallimard, prix Goncourt 2020. Bravo encore et merci.
Merci beaucoup.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le 13h, Christophe Lamar, puis La France bouge. Bonne journée.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.